Prie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Sainte Madeleine, Saint Lazare, Sainte Marthe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Est-ce que vous m'entendez sans micro?
Oui.
Bon, alors je parle sans micro. Le bon Père François de Sales, à peine étais-je arrivé, m'a gentiment proposé, m'a sauté dessus pour me demander de vous faire un petit topo à la place de ce moment des chefs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, et donc du coup je me propose de vous faire un traité d'arétologie. Alors, arétologie, A-R-E-T-O-L-O-G-I-E, c'est la science, ça c'est pas la science des arêtes, c'est la science qui étudie les vertus, c'est tout simple, hein. C'est un mot savant, comme ça vous pourrez le sortir savamment un jour où ça arrivera dans la conversation, arétologie, voilà, c'est pas souvent non plus. C'est tout simplement la science des vertus, l'arétologie, c'est de comprendre, et c'est ça. L'idée derrière est importante pour vous, de comprendre que la vie chrétienne, c'est pas simplement d'éviter le mal, c'est de surfer au-dessus du péché sans tomber dedans, et se poser la question jusqu'où je peux aller pour pas faire le mal, parce que ça ce serait vraiment dommage. Que la vie chrétienne, ça consiste à grandir en vous-même et à développer une richesse intérieure. Si vous voyez la vie chrétienne comme cela, alors déjà la vie chrétienne devient sympathique, parce qu'elle ne consiste plus à éviter de tomber, mais elle consiste à grimper, et en cela c'est encourageant. Et comment entretient-on en nous une richesse intérieure, et comment grandit-on intérieurement? C'est par les vertus. Il faut vraiment, et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui on n'en parle plus beaucoup, il faut vraiment que vous ayez à cœur de découvrir ce que sont les vertus, les richesses de l'âme, les beautés de l'âme, les vertus, et de comment les fait-on grandir. C'est ça l'arétologie, tout simplement. Et là, on va simplement appliquer la science de l'arétologie. J'ai arrêté avec ce mot parce que je ne l'utilise que là, hein, parce qu'en soi, on ne l'utilise jamais. On va simplement parler des vertus qui font de nous des bons chefs, puisque c'est quand même un peu le traité des chefs. On va parler un petit peu de ça, puisque déjà peut-être dans votre chapitre, Mais en tout cas, un jour dans votre vie, vous aurez à être des chefs, ça il faut le comprendre. Tout simplement parce que notre Seigneur a choisi d'organiser comme ça sa création. Dieu pourrait diriger chacun de nous directement en se manifestant à lui, en le disant, voilà, toi tu vas là et tu dois aller là. Mais Dieu ne le fait pas. Et Dieu décide de conduire les hommes par d'autres hommes, comme ça qu'il procède. Vous-même, vous avez été conduit depuis votre naissance jusqu'à maintenant par d'autres personnes qui ont été vos parents, vos professeurs, les gens que vous allez rencontrer, les prêtres, les religieuses, et qui du coup ont exercé sur vous un certain rôle de chef. Et vous-même, vous allez être appelé un jour ou l'autre à exercer ce même rôle sur d'autres personnes. C'est assez beau, c'est grand, c'est digne de la part d'un homme ou d'une femme de conduire non seulement son âme vers le ciel, mais aussi de conduire l'âme des autres vers le ciel. Nous sommes appelés à cela. Donc nous sommes appelés tous, d'une manière ou d'une autre, à être des chefs. Or, on ne sait pas ce qu'est un chef. Donc je vais essayer de résumer ça rapidement autour de quelques vertus, dont deux vertus sont très importantes pour le chef. Une vertu d'abord, très rapidement, pour que vous ayez une idée. Une vertu, c'est une qualité de l'âme. Vous avez votre âme qui est là, hop, elle est toute neuve. En fait, non, elle n'est pas toute neuve, parce que vous avez le péché originel qui a blessé cette âme. Ça, il faut être conscient, partir de là. Hein. Vous avez le baptême qui enlève la faute du péché originel, mais il reste une marque. Voilà. Je fais ça pour les enfants du cathé, alors je ne sais pas si ça marche avec vous, mais on va voir. Ça, c'est votre âme, vous voyez ? Telle que vous ne l'avez pas, parce que ce n'est plus comme ça du tout, mais c'est l'âme telle qu'elle sort des mains de Dieu. Une âme vierge, sans défaut ni pliure. Le péché originel exerce sur notre âme un pli, un pli important, parce qu'il condamne l'âme à la mort et à l'enfer, donc c'est pas n'importe quel pli. Et le baptême enlève le péché originel, donc enlève, déplie la feuille. Cependant, il reste une marque qui va faire que plus tard, le péché va être plus facile. Et ça marche pour tout. Si vous prenez une autre âme, voilà, ça c'est mon âme, ok. On dit qu'on oublie un peu l'histoire du péché originel et tout ça, parce que ça complique les choses. Mais la première fois que vous allez mentir dans votre vie, vous n'avez jamais menti avant, ça va être super dur. Parce que vous ne l'avez jamais fait, imaginons que vous mentez à vos parents, pour des raisons, tu vois, je ne vais pas me faire punir et tout ça, et la première fois, c'est laborieux, le pli est difficile à mettre. Vous rougissez, vous êtes gêné, vous en voulez, vous demandez pardon à vos parents tout de suite après, et vous allez vous confesser, et du coup, votre âme, il n'y a plus le péché, mais il reste un certain pli. Et la deuxième fois que vous allez mentir, ça va être plus facile, parce que vous l'avez déjà fait avant. Et c'est ainsi, petit à petit, que dans votre âme, peut se créer ce qu'on appelle un mauvais pli, un vice. Inversement, lorsque vous décidez de lutter contre un défaut, comment est-ce que vous allez faire? C'est tout simple, vous retournez votre âme et vous essayez de poser l'acte opposé à votre défaut. Par exemple, si mon défaut, c'est d'être paresseux. Je suis très paresseux, donc du coup, tous les matins, c'est très très facile pour moi, de ne pas me lever le matin, parce que j'ai pris ce pli-là. Et bien, je vais décider le lendemain, hop, de poser un acte contraire à ma paresse, et donc de me lever au moment où mon réveil sonne. Et c'est vachement dur, parce que j'ai un pli qui s'est fait dans l'autre sens. Donc j'y vais, c'est dur, première fois, c'est une galère et tout. Hop. Mais une fois que je l'ai fait, ça commence, alors attention, ça ne marche pas d'un coup, hein, mais ça commence à mettre dans mon âme un bon pli. Et à force de répéter cette bonne action, tous les jours, je vais finir par mettre dans mon âme ce qu'on appelle une vertu. Une vertu, c'est une habitude bonne de l'âme qui fait que le bien est facile pour moi. Et c'est ça qu'il faut arriver à acquérir dans notre vie. Pas simplement de dire, allez, je vais éviter de pécher aujourd'hui. C'est minable. C'est bien déjà, mais vous êtes appelé à plus que ça. Vous êtes appelé à essayer de mettre dans votre âme des bonnes habitudes qui vont faire que le bien va être facile pour vous. Et que le bien va être heureux pour vous. Et vous allez aimer faire le bien. Parce que vous avez acquis dans votre âme cette habitude du bien. Comment ça s'acquiert? Par la répétition quotidienne des bonnes actions. C'est ça la rhétologie. Je veux avoir telle vertu, ça marche pour toutes. Le courage, la pureté, l'humilité, d'autres vertus qu'on va voir là. Pour toutes les vertus, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas en la demandant et en attendant qu'elle me tombe du ciel que je l'aurai. Alors bien sûr, il faut la demander. Il faut demander au Seigneur de nous aider pour acquérir une vertu. Mais c'est surtout en me bougeant un peu et en me disant, ben voilà, je veux, j'en ai marre de cette paresse qui est en moi. J'en ai marre de ce mensonge que j'ai instauré dans mon âme par mes mensonges répétés. Et ben je vais lutter contre ça. Et au début, ça va être difficile. Et c'est souvent là qu'on se décourage. Et qu'on se dit qu'on ne va pas y arriver. Et c'est là qu'il faut continuer. Parce que plus vous allez le faire, plus vous allez poser de bonnes actions, plus ce pli va venir dans votre âme. Voilà. Ça, c'est pour ce qu'est une vertu. Alors, regardons un petit peu pour le chef, quelles sont les vertus dont il a besoin. Parce que on ne naît pas chef. On le devient. C'est quelque chose qu'on a dû vous dire déjà. On le devient, on devient chef par l'expérience, on devient chef en essayant d'acquérir certaines vertus indispensables à un chef. Ce qui veut dire qu'être chef, ce n'est pas une affaire de tempérament. Vous savez, on distingue en psychologie les tempéraments des caractères. Et tempérament, c'est phlegmatique, machin, labilieux, mélancolique et sanguin. Voilà. Ça, c'est des tempéraments. C'est des choses, ça ne bougera pas, quoi. C'est comme ça en vous. Moi, je sais ce que c'est mon tempérament. Il faut que vous appreniez à le connaître. Alors, et souvent, l'un et l'autre, on est mis entre les deux. Puis après, on complique ça avec des bases et des sous-bases, si on veut. Mais ça ne sert à rien, à mon avis. Mais on a un tempérament qu'on a reçu à la naissance et qui ne bouge pas. Et c'est ni bon ni mauvais, en soi. Après, à partir de ce tempérament, vous allez vous construire un caractère. Et là, ça dépend de vous. Vous ne pouvez pas dire « j'arrive pas à me lever le matin parce que c'est mon caractère ». Et du coup, essayez de vous déculpabiliser de votre paresse en disant bah, c'est comme ça, c'est mon caractère. Non, parce que le caractère, c'est vous qui le forgez. Le caractère, c'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel et sur lequel vous ne pouvez rien faire. Le caractère, c'est vous qui le forgez par vos bonnes actions et par les vertus que vous essayez de mettre. D'accord. Donc c'est à vous de vous changer au niveau du caractère. Donc à ce niveau-là, tout le monde peut devenir un chef. Alors certains ont des prédispositions, mais on peut tous, en essayant de pratiquer certaines vertus, essayer de devenir un chef. Pour être un bon chef, il faut avoir deux vertus. Il faut en avoir six en fait, mais on ne va pas les faire les six, je pense, on ne va pas y arriver. Mais il faut avoir deux vertus qui en apparence s'opposent un peu, mais qui se complètent. Attention, il y a des noms compliqués, mais vous apprenez des choses pour les sortir dans des dîners. La magnanimité, mais je pense que vous avez peut-être déjà vu ça, la magnanimité. Et en face, l'humilité. On a l'impression, magnanimité, c'est la grande âme. Mania, anima, grande âme. Et l'humilité, ben on va essayer de le définir parce qu'on se trompe complètement sur ce que c'est que l'humilité. Pour être un chef, il faut les deux. Magnanimité et humilité. La magnanimité, c'est le fait d'avoir une grande âme. Et c'est important que vous ayez une grande âme. L'inverse de la magnanimité, ce qui n'est pas bien du coup, c'est ce qu'on appelle la pusillanimité. La petite âme. Ah ouais, je vous ai dit qu'il y a des mots compliqués. Pusillanimité. Animité, c'est l'âme. Pusille, petit. Petite âme. Ceux qui ont des âmes recroquevillées sur eux-mêmes. Et qui vont appeler ça de l'humilité alors que ce n'est pas vrai. La pusillanimité, c'est je suis nul, je vaux rien. Je suis incapable, et donc du coup je m'engage pas et je fais rien. Il y a des gens qui vont garder une petite âme toute leur vie. Parce qu'ils n'ont pas le courage de voir les choses en grand. Et ils vont appeler ça de l'humilité, en disant « Ah oui, mais je suis tout petit, je suis le dernier des derniers. » Ben non, ben non. Il faut avoir une grande âme. Ça veut dire avoir de grands désirs. Vouloir faire de grandes choses dans sa vie. Pourquoi ? Parce que on a été créé par Dieu et que Dieu a fait du bon boulot en nous. Et donc il a mis en nous des talents. Il est essentiel que vous en soyez convaincus. Celui qui refuse de développer les talents que Dieu a mis en lui, ce n'est pas quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un d'ingrat. Saint Thomas d'Aquin qui dit ça. Alors, on va dire, ah, je suis tout petit, donc je vais garder la dernière place et tout. Non! Faites au maximum de ce que vous pouvez avec les talents que Dieu vous a donnés. Ayez des projets. Il faut vouloir faire de grandes choses dans notre vie. Parce que Dieu vous a donné la capacité de faire de grandes choses. C'est ça la magnanimité. Ayez une grande âme. La magnanimité est donc une vertu chrétienne. Le chef est quelqu'un qui a des grands projets, qui veut faire des choses. Qui veut changer les choses. Le chef, c'est quelqu'un qui va savoir communiquer ce grand projet à d'autres. Parce que le chef, il n'agit jamais tout seul. Il a des gens qui vont le suivre. Et s'il est capable de communiquer sa grandeur de vue à d'autres, alors il sera un bon chef. Le père de famille ou la mère de famille doit être magnanime. C'est quand même grand de fonder une famille. C'est même très très grand. De procréer des êtres avec Dieu. On agit avec Dieu, c'est pas rien. Et ensuite, on a charge d'âme. On a des âmes qui nous sont données et qu'il va falloir mener au ciel, du début à la fin. C'est un grand projet. Il faut avoir pour cela une grande âme. C'est notre projet. Voilà, merci. Ok, donc ça, c'est la magnanimité. Derrière la magnanimité, il y a quelque chose d'important pour vous, c'est de ce qu'on appelle le sens de la mission. Vous vous posez sans doute pas mal de questions en ce moment, de qu'est-ce que je vais faire plus tard. C'est normal, moi je m'en pose moins parce que je sais à peu près ce que je vais faire plus tard. Voilà, parce que bon, on est tombé dessus. Mais c'est normal de se poser la question, mais je vous invite peut-être à la poser de manière différente. À pas simplement vous demander qu'est-ce que je vais faire plus tard, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de moi plus tard. Et il est important de se la poser comme cela, parce que ça nous fait comprendre que vous êtes sur la terre pour une mission. Acquérir le sens de la mission pour une personne de votre âge,
qui veut devenir un chef plus tard, c'est comprendre que le Seigneur m'a mis là et m'a donné des dons et des talents pour quelque chose. Et la question qu'il faut que vous posiez, c'est quel est ce quelque chose que le Seigneur attend de moi? Quelle est la mission pour laquelle il m'a mis sur la terre et pour laquelle il m'a donné ses talents? Ça revient finalement à la question de départ, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Parce que ce que vous voulez faire plus tard, ça répond plus ou moins aux talents que vous avez. Je me sens doué dans les mathématiques, ou pour m'occuper d'enfants, ou pour prier, et donc du coup, j'ai plutôt envie de m'orienter là-dessus, d'accord? Mais si vous regardez juste vous, et ce que vous voulez, vous perdez une donnée du problème qui est essentielle, c'est qu'est-ce que Dieu veut. Et vous perdez surtout cette idée que faire un projet dans sa vie, avoir un projet dans sa vie, c'est pas simplement parce que je l'ai décidé, mais parce que c'est ma mission. Vous avez une mission dans votre vie, il faut avoir le sens de la mission. Parce que une fois que vous aurez pour vous le sens de la mission, compris quelle est ma mission, vous saurez diriger, ça c'est important, c'est un peu fin, mais c'est important. Une fois que vous aurez compris quelle est ma mission, et que vous vivrez dans votre vie en cohérence avec cette mission, vous serez capable de diriger les autres. Au sens vrai du terme, ça veut dire non pas en leur disant bah, « toi fais ci, toi fais ça », parce que ça, c'est pas diriger les gens, ça. Mais d'essayer d'expliquer aux gens « il faut que tu fasses ça parce que notre mission, c'est ça ». Être un vrai chef, c'est pas distribuer des ordres les uns après les autres pour qu'ils les exécutent, pour que ceux qui sont en dessous de nous les exécutent. Être un vrai chef, c'est faire entrer tous ceux qui nous sont soumis, subordonnés, dans cette mission principale. Si ceux qui sont en dessous de vous ne comprennent pas quelle est la mission, une équipe au Saint-Lazare, le but c'est d'aller là ou je sais pas où. Si vous gardez l'objectif de la mission pour vous tout seul et que vous dites aux autres, toi tu fais ça, mais qu'ils n'ont pas, eux, une vision d'ensemble de la mission, eh ben ils vont mal faire leur boulot, voire ils vont se révolter parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils le font. Il faut, quand vous avez des gens qui sont en dessous de vous, que vous ayez cette capacité à leur exprimer quel est votre projet, voilà, et à prendre ces gens avec vous. Du coup, ils seront enthousiastes, parce qu'ils verront en même temps de vous quel est le projet, et ils comprendront quelle est leur place à eux dans ce grand projet que vous avez. Ça, c'est très important pour le chef. On a parfois tendance, quand on est chef, à garder, on garde les soucis pour nous, et du coup, on garde l'objectif pour nous, et on distribue aux gens leur rôle, quoi. Si vous voulez qu'ils le fassent avec enthousiasme et qu'ils vous suivent jusqu'au bout, il faut que vous fassiez rentrer les gens dans votre projet, que cette vertu de magnanimité qui est en vous, j'ai envie de faire une grande chose, vous la communiquiez à ceux qui sont autour de vous. Ça, c'est important. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Ah, on manque un tout petit peu de temps. Parce que, à côté de la magnanimité, je voulais vous parler de l'humilité. L'humilité, faites très attention. L'humilité, ce n'est pas la vertu qui consiste à dire « je suis nul, je ne sers à rien ». Ça, c'est une fausse humilité, c'est une mauvaise humilité. Celle qui consiste à se déprécier, à dire « ah, j'ai que des défauts, je suis le dernier de tous les hommes ». Alors, il y a certains mystiques qui ont dit ça, hein, mais c'est des mystiques. Vous ne l'êtes pas encore. Donc, il faut qu'avant d'être un mystique, vous soyez quelqu'un d'objectif sur vous-même. Qu'est-ce que je suis? Eh bien, je suis une créature du bon Dieu. Et le bon Dieu, ses œuvres, elles sont belles. C'est important, ça. Si vous ne savez pas voir en vous la beauté qui y réside, la bonté qui est en vous, et les qualités que vous possédez, alors vous faites insulte au Seigneur, qui n'a pas su distribuer en vous des beaux dons ou de belles qualités. Il faut vraiment que vous sortiez de la tête cette idée mauvaise de l'humilité. Alors du coup, l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est tout simplement un regard vrai sur moi-même. Un regard vrai. Pas trop, je suis le meilleur, tout ça. Ça, c'est pas bien. Mais pas assez, ça sera pas bien non plus. Ah, j'ai que des défauts. Non. un regard vrai, un regard équilibré sur moi-même. Je suis tel que je suis, avec des qualités que je connais et des défauts que je connais. Il faut que chacun d'entre vous, là, vous soyez capable de me donner votre qualité et votre défaut principal. Vous n'êtes pas capable, vous ne vous connaissez pas. Je ne vais pas vous le demander là, mais réfléchissez-y. Quelles sont mes qualités ? Quelles sont mes qualités si je suis incapable de les connaître ? Comment puis-je ensuite avoir un projet, comprendre ma mission et comprendre ce que le Seigneur attend de moi ? Je ne peux pas. Si je ne me connais pas au niveau de mes qualités, si je ne vois pas qu'il y a des choses bonnes en moi qu'il faut développer. Mais à côté, quels sont mes défauts ? Parce que si je ne vois pas qu'il y a des défauts, alors je vais me lancer tête baissée dans des projets sans prudence, sans précaution, et mes défauts vont me faire tomber. Non. L'humilité consiste en un regard vrai sur moi-même par rapport à Dieu. C'est important. Du coup, quand je vais voir mes qualités, je ne vais pas faire le faux hypocrite, ah non, c'est pas vrai, je ne suis pas comme ça, me dites pas que j'ai des qualités, ah non, non, non. Si j'ai des qualités, mais merci mon Dieu. Voilà. Je reconnais que j'ai des qualités et que je suis bon pour ça. Et je reconnais surtout que c'est le Seigneur qui m'a permis d'être bon pour ça. Donc au lieu de me vanter de ces qualités ou de ne pas les reconnaître et de faire le faux humble, je dis j'ai des qualités, merci mon Dieu. Et je vous rends le fruit de mes qualités. Mais je ne me les cache pas. Et à côté, j'ai des défauts. Et là, pour le coup, je sais que c'est de ma faute. Ce n'est pas de la faute du bon Dieu. Vous voyez l'humilité ? L'équilibre entre les deux. J'ai des qualités, mais je les rends à Dieu parce que c'est de lui qu'elles me viennent. Et du coup, je vais les développer pour lui. Et parce qu'il me les a donnés. Parabole des talents. Ah, j'ai un talent, oui, mais je le cache. Eh bien, il lui arrive des mauvais sorts, celui qui cache son talent. Il finit là où sont les pleurs et les grincements de dents. En revanche, ceux qui ont reçu 2 talents, ou 5, ou 10 talents, il les développe, et le maître dit, c'est bien, serviteur bon et fidèle, tu t'es montré fidèle en peu de choses, rentre dans la joie de ton maître. Vous avez des talents, Dieu a fait des belles choses en vous, cultivez-les, et ayez conscience de vos défauts, pour être prudent, pas vous lancer de tête baissée. C'est ça la vraie humilité. Quand vous avez les deux, magnanimité et humilité, alors vous êtes capable de concevoir des grands projets, de mettre, d'inclure vos subordonnés dans ces projets, de les faire travailler, de ne pas être sur leur dos tout le temps, faire confiance. L'humilité, c'est aussi faire confiance à ceux qui sont en dessous de moi, porter leurs erreurs, important de la part du chef, parce que je suis leur chef, voilà. Et voilà, c'est cet équilibre-là qui fera de vous des bons chefs. Magnanimité, humilité, et à cela, il faut rajouter 4 autres vertus, mais on ne va pas toutes les développer, mais une en particulier, sur laquelle je vais insister pour terminer, c'est la vertu de tempérance chez le chef. Je ne sais pas si vous savez, mais saint Thomas d'Aquin donne 4 vertus morales principales. La justice, la force, la tempérance et la prudence. On ne va pas les faire toutes les 4, mais je vais surtout vous parler de la tempérance. Parce que la tempérance, c'est quoi ? C'est la capacité à se maîtriser soi-même. Or, comment voulez-vous, en tant que chef, être capable de maîtriser les autres, au sens de diriger les autres, vers le bien et vers le projet qui est le vôtre, si vous êtes incapable, par vous-même, de vous diriger? Votre premier, vous savez, il y a le chef et le subordonné, le chef il est au-dessus, le subordonné il est en dessous, votre premier subordonné c'est vous. Le chef, son premier rôle, c'est d'être le chef de son âme, le maître de son âme. Et à ce prix, il pourra diriger les autres avec justice, avec équilibre et avec tempérance. Donc tout le... C'est ça qu'il faut... Je tire ça d'un livre qui est très important, qui s'appelle, si jamais vous tombez dessus, achetez-le, ça s'appelle le leadership vertueux. Alors leadership, ça veut dire être chef, vertueux. C'est écrit par un Russe qui fait des conférences à des chefs d'entreprise. Chef d'entreprise, ça veut dire à des grands patrons qui dirigent parfois 50 à 500 à 1000 hommes parfois. Voilà, des grosses, grosses entreprises. Et qui leur dit que s'ils veulent être des chefs, il faut qu'il soit tempérant. Autrement dit, tout le travail que vous allez faire sur vous-même, tempérant, je ne sais pas si vous, très clairement, c'est notamment sur la pureté, la capacité à maîtriser mes émotions, à maîtriser mes vices, à maîtriser mon regard, mes pensées, mes actions, voilà. Savoir être tempérant, savoir être à me régler moi-même. Si vous avez cette capacité-là, vous saurez être un bon chef. Autrement dit, pour être un bon chef, il faut être un saint. Voilà, en gros, ce que ce maître de conférence très connu explique à des chefs d'entreprise. Et il a raison. Si vous voulez être un bon chef, soyez d'abord le chef de votre âme. Vous ne pouvez pas dédoubler votre âme, entre guillemets. Être incapable de vous maîtriser et d'avoir de belles vertus, de pureté, de tempérance, pas d'excès, tout ça. Vous ne pouvez pas être débauché intérieurement et être un bon chef à côté. Ça ne marchera pas. Donc si vous voulez être des bons chefs, soyez d'abord le bon chef de votre âme. Et tout le travail que vous faites déjà maintenant, en essayant justement de lutter contre les tentations, de vous confesser, de combattre au niveau de la tempérance, de la pureté, de l'excès, l'alcool, la gourmandise, tous ces trucs-là, tous ces efforts que vous faites sur vous-même, vous préparent à être plus tard un bon chef et à diriger les âmes vers Dieu. Donc ce n'est pas du temps perdu, au contraire, c'est bien. Voilà. Voilà. Si je voulais terminer quand même là-dessus, si vous pouvez retenir une chose de tout ça, c'est vraiment cette idée que vous n'êtes pas là, sur la terre, pour entrer au paradis par la petite porte, quoi. On n'est pas sur la terre pour éviter le péché. C'est nul comme raisonnement. On est sur la terre pour devenir des grands saints. On est sur la terre pour faire grandir notre âme et pour orner notre âme de vertu. On est sur la terre pour devenir des chefs et pour aider les autres âmes à devenir des saints. Donc il faut viser haut, il faut viser grand, tout en étant conscient qu'on n'y arrivera pas tout seul, qu'on a besoin de la grâce de Dieu, de l'aide des sacrements, mais ayez des grandes âmes. Voilà. Ayez des grandes âmes. Ne laissez pas vos échecs rendre votre âme toute petite. Il est normal qu'il y ait des échecs. Ça fait partie de cet apprentissage. Les échecs, c'est l'expérience aussi. Donc il est normal qu'il y ait des échecs, mais gardons toujours ce grand idéal de sainteté pour nous, de vouloir faire des grandes choses, et essayons d'acquérir par notre effort quotidien de tous les jours cette maturité, parce que finalement c'est ça. Être chef, c'est être mûr. Pas mature, ça n'existe pas dans le vocabulaire, attention. Mature, c'est un mot anglais. Il faut être mûr. Donc, acquérir la maturité de votre âme, c'est tout simplement faire en sorte que votre esprit, votre intelligence maîtrise votre corps. Quand vous serez arrivé à ça, et c'est peut-être pour nous tous à la fin de la vie qu'on y arrivera, parce que c'est du travail, alors on aura acquis la véritable maturité qui a un autre nom aussi, qui s'appelle la sainteté. Voilà. Que je vous souhaite, bien sûr. Voilà. Vous avez des questions? Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, toutes les qualités qu'il faut pour être un bon chef?
Les trois autres, pardon. Alors, magnanimité et humilité, ça on a dit. D'accord. Et ensuite, force, évidemment. La force d'âme, la résistance notamment, la force. Donc force, prudence. La prudence, c'est pas, mais c'est cette capacité à réfléchir avant d'agir, mais pour agir. Force, prudence. Justice, il est essentiel d'être juste par rapport à nos subordonnés quand on est chef. Être juste par rapport à soi et par rapport aux autres. Et tempérance. C'est les quatre vertus morales de saint Thomas d'Aquin qui sont indispensables pour être un bon chef. En dessous de ces deux grandes vertus que sont l'humilité et la magnanimité. Si vous voulez lire plus là-dessus, il y a ce livre alors je n'ai plus l'auteur en tête parce que c'est un nom compliqué, un peu russe du coup, mais il s'appelle Le Leadership Vertueux, que je vous encourage beaucoup à lire. Voilà. Merci beaucoup.
Non, je vous en prie.
Pour retrouver un peu les topos du chapitre.
Voilà.
C'est tout des développements. C'est un message.
Voilà. Bon travail.
Merci. Merci.